Et en attendant, je vous invite à tourner dans la parole de Dieu dans le premier Samuel, premier livre de Samuel, au chapitre 30. Chapitre 30. Ah oui, c'est vrai, c'est ce que je voulais marquer, oui, oui. Alors, bon, on avait prié pour notre sœur Angela qui éprouvait des difficultés pour sa grossesse. Eh bien, le Seigneur a répondu, elle a accouché cette semaine. Vendredi, à quelle heure? Il pèse combien? 2,2 kg. Ah oui, parce que c'était à la citadelle, donc Marie est au courant. Marie, tu veux te lever pour nous donner un petit peu plus de détails? Okay. Chambre 45, salle. Alors, la mère et le père se portent bien, oui. Ah, OK. Voilà. Alors, il y en a encore une qui est enceinte dans l'église. Il faut continuer à prier pour elle. C'est Sophie, ça sera son premier. Alors, voilà. Seigneur béni, l'école du dimanche grandit. Nous, on vieillit. Mais il y a de la relève, quoi. C'est magnifique. 1 Samuel, chapitre 30, des versets 1 à 6. Alors, c'est un message autant ce matin pour ceux qui viennent de prendre une décision pour le Seigneur, ceux qui entrent dans la foi chrétienne, et autant pour nous aussi. C'est bon pour les vieux chrétiens de se rappeler certaines choses qu'au fil des années, on peut oublier à travers les épreuves, à travers les choses de la vie, les différentes choses de la vie. Et moi, en tout cas, c'est une lecture qui m'a fortement encouragé. J'aimerais vous partager ce matin eh bien, ce que Dieu a placé sur mon cœur. Donc, 1 Samuel, chapitre 30, les 6 premiers versets. Lorsque David arriva le troisième jour à Tsiklag, avec ses gens, les Amalécites avaient fait une invasion dans le Midi. Et à Tsiklag, ils avaient détruit et brûlé Tsiklag. Après avoir fait prisonnier les femmes et tous ceux qui s'y trouvaient, petits et grands. Ils n'avaient tué personne, mais ils avaient tout emmené et s'étaient remis en route. David et ses gens arrivèrent à la ville, et voici, elle était brûlée. Et leurs femmes, leurs fils et leurs filles étaient emmenés captifs. Alors David et le peuple qui était avec lui élevèrent la voix et pleurèrent jusqu'à ce qu'ils n'aient plus la force de pleurer. Le texte biblique est très fort ici, hein? Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé de pleurer jusqu'à ce que vous n'ayez plus la force de pleurer, mais c'est ce que le texte biblique nous dit ici, quoi. Alors, je trouve que le terme est très fort ici. Alors, il devait avoir une grande tristesse, une grande angoisse, une grande détresse dans le cœur de ces gens-là. Écoutez, on avait amené leur famille, quoi. Alors, ils pleurèrent jusqu'à ce qu'ils n'aient plus la force de pleurer. Les deux femmes de David avaient été emmenées à Shinoam de Jizréel et Abigaël de Carmel, femme de Nabal. David fut dans une grande angoisse, car le peuple parlait de le lapider, parce que tous avaient de l'amertume dans l'âme, chacun à cause de ses fils et de ses filles. Mais David reprit courage en s'appuyant sur l'Éternel, son Dieu. Prions. Seigneur, nous voulons te remercier parce que tu nous dis dans le Nouveau Testament, Seigneur, que ce que tu nous as laissé dans l'Ancien Testament, c'était pour nous servir d'exemple. Et Seigneur, autant Jésus est un modèle parfait pour nous dans le Nouveau Testament, autant, Seigneur, certains de tes serviteurs dans l'Ancien Testament sont aussi des modèles pour nous, parce que ce sont des hommes et des femmes comme nous. Et nous pensons ici ce matin à David. Seigneur, nous voulons à travers David pouvoir retirer, soutirer ce qui faisait de lui, Seigneur, qu'il puisse reprendre courage en s'appuyant sur toi. Qu'est-ce qui le motivait, Seigneur, pour, dans les épreuves les plus difficiles de sa vie, eh bien, se tourner vers toi, reprendre courage en s'appuyant sur toi et reprendre à chaque fois un nouveau départ. Seigneur, que tu puisses nous enseigner à travers ta parole ce matin, afin que nous aussi, comme David, Seigneur, nous puissions, lorsque nous sommes découragés, reprendre courage, non pas en nous appuyant sur les hommes, mais en nous appuyant sur l'Éternel, notre Dieu. Bénis ta parole ce matin, Père, au nom de Jésus. Amen.
Amen. Amen. Amen.
Alors, tout le monde finit par avoir des problèmes dans sa vie, mais ce n'est pas tout le monde qui règle ses problèmes de la même façon. Quelle est la première chose que vous faites lorsque vous êtes confronté à un problème dans votre vie et de quelle manière réglez-vous ce problème? S'il y a quelqu'un qui a connu plus que sa part de problèmes dans la vie, eh bien, ce fut le roi David. À titre d'exemple, je vais vous donner une liste. Je ne sais pas si vous auriez survécu à ce que lui a vécu, mais le Seigneur, il sait qui est épargné, il sait qui a besoin de passer par des épreuves. Mais David, en tout cas, a été vraiment écorché tout au long de sa vie. Et pourtant, aujourd'hui, on sait qu'à travers tout ce que David a vécu, eh bien, David, il est dans la présence de Dieu. Et quand il y aura les noces de l'agneau, eh bien, on verra David assis autour de nous, à la même table qu'Abraham, à la même table que Jacob, qu'Isaac. David sera aussi à la même table que nous, il mangera à la même table que nous aux noces de l'agneau. C'est pas extraordinaire, ça, hein? Magnifique, ça. Moi, ça fait des années que je me dis, écoute, Noé, qu'est-ce qu'il y a de l'air? Parce qu'on voit des photos de Noé, on nous fait Noé avec des barbes, il y a une barbe qui... Tu as l'impression que quand il va se tourner, il va accrocher le visage de tout le monde, quoi. Mais on essaie de s'imaginer ces héros de la foi dans l'Ancien Testament, et un jour, frères et sœurs, si on ne les a pas connus, on les connaîtra. Parce qu'ils sont dans le même, ils habitent le même royaume que nous, et différents passages dans les Écritures nous disent qu'on se reconnaîtra. Et moi, j'ai hâte de serrer la main à Noé, j'ai hâte de serrer la main à Abraham, le père de tous les croyants, quoi. Hein, j'ai hâte de serrer la main à Adam aussi. Bon, j'y ferai pas la morale, mais... Adam va être là, Ève va être là, puisqu'elle est la mère de tous les vivants, et que Dieu est le Dieu de tous les vivants. Donc, si elle ne s'était pas repentie, si elle n'avait pas trouvé son salut dans son sauveur, eh bien, on ne l'aurait pas appelée Ève, on lui aurait donné un autre nom, la mère de tous les morts, quoi. Mais on lui a donné le nom de Ève, la mère de tous les vivants. Et on voit aussi dans l'Ancien Testament que Dieu va pourvoir au premier sacrifice. Il y a un innocent qui va payer pour les péchés d'Adam et Ève. C'est un animal, quoi, qui n'a rien fait de mal et qui va être sacrifié pour couvrir les péchés, le péché d'Adam et Ève. Alors, Dieu est extraordinaire. Il est magnifique. Jésus-Christ, en Jésus-Christ, il a non seulement sacrifié son propre fils, un innocent, comme l'animal dans l'Ancien Testament, mais la Bible nous dit que dans le Nouveau Testament, contrairement à l'Ancien Testament, eh bien, le sacrifice, il ne couvre pas nos péchés, mais Jésus les efface, nos péchés. Hein? C'est pas merveilleux, ça. Hein? Hébreux chapitre 5 et Actes chapitre 3, verset 19, nous rappellent que le péché, Jésus sur la croix, a effacé notre péché. Et ça, c'est extraordinaire. Quoi. Extraordinaire qu'on ait un Dieu qui oublie, qui est capable d'oublier, qui ne se pose jamais la question de savoir s'il va oublier ou s'il ne devrait pas oublier, mais qui oublie. Qui oublie votre vie passée, quoi, quand vous vous présentez devant lui. Quand vous regardez à ce que Jésus a accompli sur la croix, que vous lui remettez votre fardeau, que vous remettez vos peines, vos soucis, vos péchés, eh bien, Dieu dit que vos péchés, il les efface. Il s'agit simplement de se repentir, de se convertir, et Dieu les efface. Alors, simplement à titre d'exemple pour David, parce que David, dans l'Ancien Testament, il couvre quand même beaucoup, il prend beaucoup. Et simplement vous rappeler certaines choses qu'il a vécues. Il a été poursuivi par le roi Saül, même s'il n'avait jamais rien fait de mal à Saül. Et ça, c'est simple. J'aimerais rappeler pour les nouveaux chrétiens ce matin, eh bien, quand vous venez au Seigneur Jésus-Christ, vos problèmes, ils ne s'effacent pas d'un coup. Vous ne changez pas de monde, vous changez de royaume, vous partez d'un royaume des ténèbres pour entrer dans un royaume de lumière. Mais on vit dans ce même monde où le mal habite le monde, où le mal se propage de plus en plus. Mais ça ne veut pas dire que vos problèmes, vous n'en aurez pas, mais vous êtes plus seul pour affronter vos problèmes. Vous avez le Seigneur Jésus avec vous et vous avez un témoin qui confirme qu'il est avec vous, le Saint-Esprit qui habite en vous. Ça, c'est merveilleux. Ce matin, vous avez pu ici avoir la certitude que vous n'êtes plus seul, que votre cœur qui était vide, parce qu'hier on a parlé du vide dans le cœur de l'homme, eh bien votre cœur ce matin il n'est plus vide, il ne sera jamais plus vide parce que le Saint-Esprit habite en vous, et ça c'est par la foi, par le pas de foi que vous avez fait hier, et gloire à Dieu pour ce pas de foi que vous avez fait. Là, je me réjouis que vous ayez fait ce pas de foi-là, et la seule chose que vous me direz dans un an, dans deux ans, c'est que vous regrettez de ne pas l'avoir connu avant, parce qu'il va bouleverser votre vie, il commence à bouleverser votre vie, il va vous donner une nouvelle espérance, une nouvelle assurance. Il va vous donner une nouvelle façon de voir les choses, une nouvelle façon de penser, une nouvelle façon de vivre. Et ça, c'est la plus merveilleuse des vies. Notre frère Daniel, quand il est venu au mois l'été passé, il nous a dit que la vie chrétienne, c'était pas facile, mais il nous a dit que c'est la plus belle vie de tous. Est-ce que vous êtes amen à ça? C'est la plus belle vie de tous. Il n'y a pas une autre vie, pas une plus belle vie que le monde peut nous offrir que celle que Dieu nous offre en Jésus-Christ. Alors, il a été poursuivi par le roi Saül. Deuxièmement, il a échappé de peine et de misère à plusieurs tentatives d'assassinat. Et encore une fois, on voit que Dieu était à ses côtés. Quand Saül pensait de l'avoir à la gorge, eh bien, Dieu provoquait des choses pour que David s'en échappe. Et c'est la même chose pour nous aussi. Quand on a des ennemis, on a des gens qui nous en veulent, qui complotent pour avoir notre peau, pour saler notre réputation, pour faire quoi que ce soit, Dieu va provoquer des choses pour nous sortir du pétrin, nous sortir de cette situation-là. Troisièmement, il a dû passer une partie de sa vie à se cacher dans le désert afin de préserver sa vie. C'est quelque chose, ça. Hein? Il avait été nommé, déjà élu, le roi, le futur roi d'Israël. Et il devait se sauver, vivre dans le désert, vivre comme un renégat, vivre comme quelqu'un qui, en fait, qui n'avait pas de patrie. Il a dû fuir pendant des années, en attendant que Dieu retire la royauté, que Dieu retire Saül de ce monde pour qu'il puisse prendre sa place. David a dû fuir toute sa vie. Il a dû passer une partie, à au moins une occasion, toute sa famille fut kidnappée. Toute sa famille a été kidnappée. Ceux qui lui avaient juré fidélité et loyauté, ses amis intimes, se sont tournés contre lui et ont voulu le lapider. On vient de le lire ici ce matin. Non seulement a-t-il souffert la honte d'avoir commis l'adultère et un meurtre, mais il en supportera les conséquences pendant toute sa vie. Et ça nous rappelle une chose, c'est vrai que le Seigneur pardonne tous nos péchés. Mais il n'y a pas un péché qui n'a pas de conséquences. Ça, vous pouvez être certain de ça. Le péché que vous avez commis, même si Dieu vous a pardonné, ce péché-là, il y aura toujours une conséquence. Et je pense que si Dieu a permis qu'il y ait cette conséquence d'adultère pendant toute sa vie à David, c'est simplement que Dieu a voulu lui montrer qu'il ne prend pas le péché à la légère. Le péché, ce n'est pas juste « j'ai manqué, je suis passé à côté ». Le péché, c'est, Isaïe, il définit, je trouve que le mot est fort aussi, ce sont vos crimes qui vous séparent d'avec Dieu. Pour Dieu, c'est un crime de commettre un péché. Donc, ce n'est pas une babiole, ce n'est pas une erreur, ce n'est pas un défaut qu'on a, qu'on n'est pas capable de contrôler. C'est un crime, dit le Seigneur. Et ce crime, eh bien, a conduit non pas un criminel à la croix, mais un innocent à la croix, qui a payé le prix pour des criminels. Alors, son fils Amnon va violer sa propre sœur Tamar. Ça fait partie des conséquences du péché d'adultère. Son autre fils Absalom va tuer son frère Amnon parce qu'il avait amené le déshonneur sur la famille en violant sa sœur. Conséquence indirecte du péché d'adultère de David. Absalom va se révolter contre son père en tentant de prendre sa place sur le trône. Et non seulement il va prendre la place de son père sur le trône, mais il va coucher en plus, il va se mettre sur le toit de la maison pour que tout le peuple le voie, et il va coucher avec toutes les concubines de son père, conséquence du péché d'adultère de David. Et pourtant, Dieu avait pardonné le péché d'adultère à David. Absalom sera tué aussi, ce qui causera beaucoup de tristesse dans le cœur d'Absalom, mais dans le cœur de David. Alors, dois-je continuer à vous énumérer tous les malheurs qui sont survenus dans la vie de David? Il a certainement été un homme qui a eu à faire face à beaucoup de problèmes. Pourtant, il a surmonté toutes ses difficultés face à beaucoup de problèmes. Il en est même venu à être reconnu comme étant un homme selon le cœur de Dieu. Acte chapitre 13. « J'ai trouvé en David un homme selon mon cœur, dit le Seigneur. » Vous avez déjà posé qu'est-ce que ça voulait dire, « J'ai trouvé en David un homme selon mon cœur. » Est-ce que vous pensez que Dieu, ça s'est arrêté, ça a commencé avec David et ça s'est arrêté à David, que Dieu trouve un homme selon son cœur? Est-ce que vous avez la conviction dans votre cœur aujourd'hui que Dieu cherche encore des hommes et des femmes qui correspondent au cœur de Dieu? Je crois que oui. Je pense que oui. Un homme qui agit selon le cœur de Dieu, c'est un homme qui pense comme Dieu. C'est un homme qui parle comme Dieu. C'est un homme qui agit comme Dieu. C'est un homme qui dégage les fruits de l'Esprit. C'est un homme qui voit les gens comme Dieu les voit. C'est un homme qui a un fardeau pour les âmes perdues comme Dieu a un fardeau pour les âmes perdues. C'est un homme qui ne fait pas de favoritisme par rapport à la race, par rapport à la couleur de peau. C'est un homme qui, comme Dieu, aime tous les hommes. C'est un homme qui veut, comme Dieu, que tous arrivent à la repentance. C'est un homme qui aime son prochain comme lui-même. C'est ça, un homme qui agit, un homme selon le cœur de Dieu. Et frères et sœurs, vous savez, pour y arriver, la vie n'est pas facile. Dieu ne nous permettra pas nécessairement une vie facile pour qu'on y arrive. Quand vous regardez la vie que David a vécue, quand vous regardez les épreuves que David a vécues, pour en arriver un jour à avoir un cœur qui est semblable à celui de Dieu, eh bien, on peut dire comme Paul, réjouissez-vous si vous êtes persécutés à cause du nom de Jésus. Réjouissez-vous si vous passez par des épreuves de toutes sortes, parce que Dieu le permet. Paul nous dit, réjouissez-vous. Pourquoi? Parce que Dieu veut vous amener à avoir un cœur selon le cœur de Dieu. C'est amen à ça ce matin? Pas évident, hein? Première réaction qu'on a dans notre nature humaine, « Seigneur, pourquoi ça m'arrive? Qu'est-ce que j'ai fait de mal, Seigneur? Hey, je suis un chrétien, il ne devrait pas m'arriver ça, Seigneur, je ne comprends pas. » Nous, on ne comprend pas, mais le Seigneur, il sait où il veut aller, lui. Nous, souvent, on se fait des objectifs, on n'est pas très, très sûr des atteindre, on ne sait pas nécessairement où on va. Mais les objectifs de Dieu pour chacun de vous ce matin, eh bien, c'est de vous amener, quand je dis de vous amener à ressembler à Jésus-Christ, c'est de vous amener à avoir un cœur selon le cœur de Dieu. Et plus vous allez aspirer à ça, plus les épreuves vont être là. Mais vous allez aussi bénéficier de la protection de Dieu. Ça, c'est important, comme David. Comme David, vous allez reprendre courage en chacune de vos pertes, dans vos épreuves, parce que vous savez que Dieu est à vos côtés. Alors, comment faisait-il pour être capable de passer à travers toutes ces difficultés? Bien, je crois que nous avons la réponse ici au chapitre 30, lorsqu'il a eu à faire face à un des plus sérieux problèmes de son existence. Qu'est-ce que David a fait lorsqu'il a eu des problèmes? Qu'est-ce que vous faites quand vous avez des problèmes? Alors, je ne sais pas, peut-être que ça correspond à ce que David a fait. Si ce n'est pas le cas, bien, on a peut-être des leçons à tirer de ça, parce qu'on voit où ça a conduit David, et on va voir ce matin où ça a conduit David. À cette période de sa vie, David vivait à Tsiklag avec 600 compagnons, parce qu'il avait dû fuir le roi Saül, qui voulait l'éliminer, en le pourchassant dans tout le territoire d'Israël. On voit ça dans 1 Samuel, chapitre 26, à partir du verset 1. Là, il doit partir parce que ça devient intenable, quoi. Et là, David, il va lancer des attaques contre les ennemis d'Israël à partir de Tsiklag, et il va recevoir la pleine confiance du roi Achish, parce que celui-ci, un roi philistin, parce que celui-ci croyait que David combattait uniquement les ennemis des Philistins. Et les Philistins se préparaient à combattre le roi Saül, et ils s'étaient rassemblés à Afek, tandis que les Israélites campaient à la source proche des Israélites. Alors, 1 Samuel 29, vous lirez ça à la maison. Je vous résume ce qui contient le chapitre 29, quoi. David et ses hommes étaient partis rejoindre les Philistins, mais les princes des Philistins, qui ne faisaient pas pleinement confiance à David, vont demander à ce que David retourne à Tsiklag. Ils avaient peur que David, en combattant Israël, que David qui les suivait, les attaquerait par derrière, donc ils n'avaient pas confiance en David. Ils ont dit au roi philistin qui avait hébergé David, ils ont dit, écoute, fais-le retourner, quoi, parce qu'on a peur, quoi. On n'a pas confiance en lui. Et lorsque David arrive le troisième jour à Tsiklag, c'est-à-dire au chapitre 30, avec ses gens, il découvre qu'en son absence, eh bien, la ville avait été pillée par les Amalécites. Ils avaient brûlé la ville et ils avaient amené avec eux toutes les femmes, y compris les deux femmes de David. Alors, au verset 4, qu'est-ce qu'il est écrit? Alors, David et le peuple, c'est-à-dire toute sa troupe, se mirent à se lamenter et à pleurer jusqu'à ce qu'ils n'aient plus la force de pleurer. Alors, finalement, verset 6, David se retrouvera dans une situation très angoissante, car ses compagnons parlaient de le tuer à coups de pierre. Chacun d'eux était plein d'amertume en pensant à ses fils et à ses filles. Furieux contre David, qu'ils tiennent pour responsable de cette situation, tous ceux qui avaient vu leur femme enlevée voulaient s'en prendre à la vie de David parce qu'il n'avait pas été là lorsque le besoin s'en était fait sentir. Verset 6, David fut dans une grande angoisse car le peuple parlait de le lapider. Je pense que c'est une réaction normale, non? Hein? Si on vous fait rentrer ici ce matin pour qu'on vous dise, il est 11h, 11h15, toi tu vas te faire lapider. Ben, je ne suis pas convaincu que vous allez me faire un gros sourire, quoi, hein? Surtout si vous savez qu'est-ce que c'est. Je pense que vous allez être comme David, vous allez être pris d'une grande angoisse, quoi. Et là, je pense que vous allez prier pour que ça n'arrive pas, quoi, hein? Et je pense que vous allez prier fortement pour que ça n'arrive pas, hein? Bon. Alors, que va faire David lorsqu'il va constater que sa famille a été enlevée, que sa propre vie est menacée? Eh bien, il est écrit à la fin du verset 6, « David reprit courage en s'appuyant sur l'Éternel, son Dieu. » David reprit courage en s'appuyant sur l'Éternel, son Dieu. Frères et sœurs, quand vous êtes découragés, est-ce que c'est sur l'Éternel, votre Dieu, que vous vous appuyez pour reprendre courage? C'est une première question qu'on peut se poser ce matin. Est-ce que vous vous appuyez sur le Seigneur pour vous redonner ce courage dont vous avez besoin pour continuer dans cette vie? Qu'est-ce que cela signifie, reprendre courage en s'appuyant sur le Seigneur? Eh bien, je crois que pour être en mesure de répondre à cette question, nous devons examiner certains psaumes que David a écrit dans des moments où il vivait de grandes difficultés. Alors, ceux qui ont leur Bible, eh bien, ça va être la fête ce matin pour vous, parce qu'on va lire plusieurs versets. Alors, lorsque David avait des problèmes, il composait souvent des psaumes. Par exemple, lorsque Saül le poursuivait, il a écrit le psaume 59. Lorsqu'il fut emprisonné à Gath, il a écrit le psaume 56. Lorsqu'il a fui Absalom, qui voulait y voler son trône puis qui voulait le tuer, il a écrit le psaume 3. Et lorsqu'il s'est caché dans le désert de Judée, il a écrit le psaume 63. Et à partir de ces psaumes, eh bien, on peut découvrir de quelle manière David reprenait courage dans le Seigneur, son Dieu. Dans le psaume 56, ceux qui ont leur Bible, psaume 56. Au verset 2. Alors, David, dans le psaume 56, qui fait allusion à l'arrestation de David par les Philistins, à Gath, nous apprenons que David s'est confié en Dieu. Verset 2, qu'est-ce qu'il dit? « Aie pitié de moi. » En d'autres mots, qu'est-ce qu'il est en train de dire? « Seigneur, accorde-moi ton appui. Accorde-moi ton appui, car on me harcèle. » Alors, frères et sœurs, quand vous êtes harcelés, voilà, on a un beau modèle de prière ici, c'est qu'on vient devant le trône de la grâce du Seigneur, puis on dit « Seigneur, accorde-moi ton appui, tu vois qu'on me harcèle, Seigneur. Tu vois qu'on me poursuit, Seigneur. Accorde-moi ton appui. » Ça veut dire quoi? Comme il est arrivé dans la vie de David, provoque des choses, Seigneur, pour éloigner mon ennemi. Provoque des choses, Seigneur, pour que je ne sois plus sa priorité dans sa vie, mais qu'il y ait autre chose qui soit prioritaire dans sa vie. Et qu'est-ce qui arrivait dans le cas de Saül? Eh bien, il y avait une armée ennemie qui rentrait en Israël, et comme il avait cerné David pour le coincer, eh bien, il devait retourner pour aller combattre cette armée-là. Et là, David avait un temps de repos. Et frères et sœurs, j'espère que c'est la même chose pour vous. Quand vous êtes harcelés, soit au travail, quand vous êtes harcelés dans peu importe ce que vous vivez, eh bien, que vous puissiez crier à l'Éternel, « Accorde-moi ton appui, Seigneur. Seigneur, je suis ton enfant, tu es mon Père céleste, accorde-moi ton appui, Seigneur. Tu vois qui me harcèle, tu connais ses plans, Seigneur. Tu sais où il veut en arriver, Seigneur. Accorde-moi ton appui, Seigneur. Aie pitié de moi, Seigneur. » Hein, c'est un beau modèle de prière, ça. C'est ce qu'il a fait. Il n'a pas dit, donne-moi la force pour que je le renverse puis que je le tue. Seigneur, à toi la vengeance, à toi la rétribution, Seigneur. Aie pitié de moi. Accorde-moi ton appui, Seigneur. Tu vois ce que mon ennemi, tu vois celui qui m'harcèle, ce qu'il veut pour moi, quoi, Seigneur. Tu vois tous les malheurs qu'il projette contre moi. Aie pitié de moi. Verset 4. Quand je suis dans la crainte, quand j'ai peur, c'est en toi que j'ai confiance, Seigneur. Avez-vous peur de perdre votre travail ce matin? Avez-vous peur de perdre la santé ce matin? Eh bien, beau passage ici. Quand je suis dans la crainte, quand j'ai peur, c'est en toi que j'ai confiance. Ça veut dire quoi pour le croyant, ça? Seigneur, si je perds mon emploi, c'est parce que tu l'auras permis. Et Seigneur, si tu permets que je perde mon emploi, c'est parce que tu as quelque chose de mieux encore pour moi. Parce que pour celui qui marche dans les voies de Dieu, le meilleur est toujours à venir. Vous dites amen à ça? C'est toujours, ça je l'ai expérimenté dans ma vie, le meilleur est toujours à venir. Toujours. Il y a des gens dans ma vie qui ont voulu avoir ma peau. Il y a des gens dans certains endroits qui m'ont poussé à forcer à quitter des églises. Et le Seigneur, je peux confirmer devant tout le monde aujourd'hui que le Seigneur avait toujours en réserve quelque chose de meilleur pour moi. Et c'est la même chose pour vous dans vos vies. Si vous marchez fidèlement dans les voies du Seigneur, peu importe ce qui vous arrive, parce que vous marchez par la foi, vous savez que Dieu est très près de vous. Vous savez que Dieu a son regard porté sur vous. Vous savez que la main de Dieu est à côté de vous. Et vous savez que le meilleur, il est là pour vous protéger, que le meilleur est à venir pour vous. Et j'espère que c'est une certitude pour vous ce matin. Écoutez, on n'est pas en train de jouer avec un petit Dieu, on est en train de jouer avec celui, on est en train de remettre nos vies entre les mains de celui qui tient l'univers dans ses mains. Celui qui est capable de prendre l'océan dans ses mains, qu'il n'y a pas une goutte qui va tomber. Et moi, j'ai de la difficulté à tenir en équilibre. Seulement une cuillère d'eau dans ma main, j'ai de la difficulté à la tenir en équilibre pour pas qu'il y ait des gouttes qui filent entre mes doigts. La Bible nous donne une belle image de la puissance de Dieu, de la grandeur de Dieu. Elle nous dit que Dieu tient l'océan dans sa main sans qu'il n'y ait aucune goutte qui s'en échappe. Et si l'océan commence à prendre de l'expansion, la main de Dieu
va prendre de l'expansion aussi. Il n'y a rien. Dieu est infiniment puissant. La grandeur de Dieu nous dépasse. La puissance de Dieu nous dépasse parce qu'on est tellement limité dans notre intelligence à comprendre cette dimension de Dieu. Quand je suis dans la crainte, j'ai peur. Quand j'ai peur, c'est en toi que j'ai confiance. Verset 5. Je loue Dieu pour la parole qu'il a dite. Je lui fais confiance. Je ne crains rien. Je n'ai plus peur. Frères et sœurs, moi, je vais vous faire une confession ce matin. Ne faites jamais confiance à votre pasteur, à qui que ce soit, à 100%. Jamais. Mais lui, vous pouvez faire confiance. Lui, vous reniera jamais. Quand il vous dit qu'il est fidèle, peu importe la situation qui arrivera, il ne vous reniera jamais. Moi, je peux vous dire que je serai toujours fidèle. Il peut arriver une situation où je risque de vous renier, comme Pierre. Je suis un être humain. Le Seigneur, lui, jamais il va renier sa parole. Et le psalmiste l'avait compris. C'est qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'il dit au verset 5? Je loue Dieu pour la parole qu'il a dite. Je loue Dieu parce que cette parole, je peux m'appuyer dessus. Dieu ne se reniera jamais. Je loue Dieu parce que la parole, la promesse qu'il a faite dans sa parole, je sais qu'il va l'accomplir et je le loue pour ça. Je le loue parce qu'il est digne de confiance. Et frères et sœurs, c'est pour ça qu'il est important de lire la Bible, c'était pour ça qu'il est important de méditer la parole de Dieu. Lorsqu'elle est imprégnée dans votre cœur et qu'il arrive des situations difficiles, où vous pourriez réagir comme une poule sans tête, quoi, qui part à droite et à gauche, ne sachant pas où aller. Mais quand vous avez ces versets imprimés dans votre cœur, elles refont surface. Et là, Dieu vous réconforte comme le psalmiste. Là, vous reprenez votre confiance. Et parce que la parole de Dieu, elle remonte en surface, vous savez sur qui vous allez vous appuyer, parce que cette parole qui remonte, ce n'est pas une parole d'homme, c'est une parole de Dieu. Amen. Oui, c'est important ce matin. Hey, David, frère et sœur, c'était un homme comme vous et moi. C'était un homme comme vous et moi. Il est sorti du ventre d'une mère, d'une femme comme vous et moi. Il a eu ses défauts, ses problèmes comme vous et moi. Il a fait confiance au Seigneur dans toutes ses épreuves. Parce que David, très tôt, il a réalisé une chose. Il ne pouvait pas compter sur aucun homme. Vous le voyez, là, il est chef de gang. Parce que les gars ont perdu leur femme. Ils sont prêts à le lapider. Hey, allô, hein? Allô, confiance, quoi? Allô, confiance? Des gars qui se sont battus avec lui pendant toutes des années, des gars qui l'ont suivi toute leur vie. Ouais, quand ça allait bien, pas de problème, David, on te suit. Hey, là, David, on vient de nous voler nos femmes, notre famille est disparue. C'est toi le responsable. Et le texte nous dit, si le texte biblique est clair, eh bien, il voulait le lapider. Et là, il est pris d'une angoisse, quoi. Bon. Il est pris d'une angoisse, mais il sait qu'il n'est pas tout seul. Et ici, dans sa prière, verset 5, je loue Dieu pour la parole qu'il a dite, je lui fais confiance, je ne crains rien, je n'ai plus peur. Verset 10. Je sais que Dieu est pour moi. Je sais que Dieu est pour moi. C'est pas beau, ça. Est-ce que vous le savez ce matin? Est-ce que vous savez que Dieu est pour vous? Maintenant, je reviens à Jean chapitre 11. Quand Marthe dit à Marie, et quand Jésus dit à Marthe, écoute, qu'il va ramener Lazare en la vie, elle dit, je sais qu'à la résurrection des morts, tu vas ramener mon frère à la vie. Et là, il lui explique, je suis la résurrection et la vie. Je suis la résurrection et la vie, n'est-ce pas? Celui qui croit en moi vivra, même s'il meurt, et celui qui vit et croit en moi ne mourra jamais. Et là, qu'est-ce qu'elle dit? Je crois. C'est plus je sais, c'est que je crois. Frère et sœur David, il dit, je sais que Dieu est pour moi. Et dans le texte hébreu ici, c'est je sais parce que je crois. Frères et sœurs, vous savez que Jésus est votre sauveur. Vous savez que Jésus est à vos côtés, puisqu'il dit, sachez-le, je serai avec vous tous les jours, et ça jusqu'à la fin du monde. Mais frères et sœurs, est-ce que vous y croyez? Quelle différence! Savoir, ça ne vous nous amènera jamais à aller de l'avant. Savoir, ça vous ne poussera jamais à marcher dans les voies de Dieu. Savoir, ça ne vous nous amènera jamais à faire confiance à Dieu, mais de croire, quelle différence, car tout est possible à celui qui croit, nous dit Jésus dans Marc, mais à celui qui sait. Les pharisiens, ils savaient, les pharisiens, ils connaissaient la parole, les pharisiens, ils ne croyaient pas. Ce n'était pas une religion basée sur la foi, c'était une religion basée sur les apparences. Tout leur rituel tournait autour de la présence, de la fréquentation des gens dans le temple. Ah, lui est venu cette semaine. Ah, lui n'est pas venu. Ah, lui est venu. Lui n'est pas venu. Ah, lui n'est pas mis dans le tronc. Ah, je n'ai pas rien entendu. Ah, lui est mis. Ah. Pourquoi les pharisiens ne mettaient pas des liasses de papier? Heureusement qu'il n'y avait pas de carte à ce moment-là. Hein? Heureusement qu'ils ne pouvaient pas payer qu'une carte bancaire, hein, donner leur dîme avec une carte bancaire, quoi, hein? Non, qu'est-ce qui est important? C'était. Moi, je suis un pasteur, hein? J'ai pas trop d'argent, mais vous allez l'entendre. Vous allez l'entendre, hein? Les pharisiens, c'était. Ça, c'est important. Hein? Jésus, il prend l'exemple, quoi, hein? Les pharisiens, il y avait un gros tronc, puis, hey, vas-y! Il y avait des serviteurs avec des poches, en plus. Vous voyez comment je suis généreux? Allez, puis là, il fallait qu'ils déversent, quoi. Hein? Gling-gling, gling-gling, gling-gling. Comme à Las Vegas, quoi. Gling-gling, gling-gling. Ouais. Et il pensait de recevoir des récompenses de la part du Seigneur, quoi. Et la petite veuve qui vient avec sa pièce. On l'entend presque pas, parce que plus elle est petite la pièce, moins elle est pesante, moins elle fait du bruit. Qu'est-ce que le Seigneur dit? Elle a donné tout ce qu'elle avait. Le pharisien, lui, même s'il faisait beaucoup de bruit avec son offrande, il a donné le surplus. Bon, ça, il avait demandé que ça coûte un prix de donner de l'argent au Seigneur. Il ne l'aurait pas fait. Parce que c'était pas. Il ne donnait pas son offrande pour que le Seigneur voie ce qu'il donnait. Il donnait son offrande pour que les gens voient ce qu'il lui donnait. C'était une religion des apparences. J'espère que ce matin, dans cette salle, il n'y a personne qui vit cette religion des apparences. J'espère que ce matin, vous ne venez pas le dimanche, parce que ça fait 5 semaines, 6 semaines que vous n'êtes pas venu, puis vous avez peur d'être jugé par les gens. J'espère que vous venez ce matin parce que vous savez que le Seigneur est présent. Parce que le Seigneur a des choses à vous dire. J'espère que vous êtes venus ce matin parce que vous aimez la communion avec les frères et sœurs en Jésus-Christ. Je peux vous assurer d'une chose, on prend pas, il n'y a pas de liste de présence derrière la chair et on ne prend pas les présences de ceux qui sont ici, de ceux qui ne sont pas là. C'est votre liberté et c'est sous le regard du Seigneur, ce n'est pas sous le regard du pasteur. C'est important. Mais les pharisiens étaient comme ça. Que dirons-nous donc de plus si Dieu est pour nous, qui peut être contre nous? Romains chapitre 8, versets 31 à 35, pour ceux qui ont leur Bible. Chapitre 8, versets 31 à 35, c'est très, très connu. Hein? Si Dieu est pour nous, qui peut être contre nous? Et là, ben, on nous parle de Jésus. Si Dieu est pour nous, qui peut être contre nous? Verset 31, il n'a même pas épargné son propre fils, mais il l'a livré pour nous tous. Comment ne nous donnerait-il pas tous, tout avec son fils? Qui accusera ceux que Dieu a choisis? Qui accusera les chrétiens? C'est Dieu qui les justifie, c'est Dieu qui les déclare non coupables. Qui peut alors les condamner? Personne, car Jésus-Christ est celui qui est mort. Bien plus, il est ressuscité, il est à la droite de Dieu, il prie en notre faveur. Pas extraordinaire, ça? Hein? Jésus peut monter au ciel, se croiser les bras en attendant qu'il revienne. Hey, il prie pour vous. Il prie pour que votre foi ne défaille pas. Il prie pour que vous persévériez jusqu'à la fin. Il prie quand il arrive des épreuves, vous pouvez vous appuyer comme David sur le Seigneur. Il prie non seulement pour que vous sachiez qu'il est là, mais pour que vous croyiez qu'il est à vos côtés jour après jour. Vous êtes amen à ça? Oui! Qui peut nous séparer de l'amour de Christ? La souffrance, le peut-être, ou bien la détresse, ou bien l'angoisse, ou encore la persécution, la faim, les privations, le danger, la mort. Qui peut nous séparer de l'amour de Christ? Rien. Romains 8, verset 31-35. Rien. Dans le psaume 59, maintenant, rapidement, psaume 59.
David fait allusion à Saül ici, en voyant surveiller sa maison pour le tuer. Et David va demander de l'aider, et il va le louer, pardon, David va demander à Dieu de l'aider, et il va le louer pour son aide. Verset 4. Psaume 59, verset 4. Sans que je sois coupable. Donc, il reconnaît qu'il est fidèle au Seigneur. Sans que je sois coupable, que je n'ai commis aucune faute, Seigneur. Sans que j'ai péché, ô Éternel, contre toi. Malgré mon innocence, il court, il se prépare. Donc, il arrive une situation difficile dans la vie de David. La première chose qu'il fait, eh bien, il ne pointe pas vers l'autre, il se regarde, il dit, est-ce que j'ai du péché dans ma vie? Il s'examine. Il se place devant le Seigneur, devant le trône de la grâce de Dieu. Il laisse le Saint-Esprit l'examiner, mettre en lumière s'il y a des choses qui ne vont pas dans sa vie. Et là, pour lui, il est clair, quoi, il n'y a pas de problème. Eh bien, là, il vient, et là, il parle au Seigneur. Verset 10. « Quelle que soit leur force, c'est en toi que j'espère, car c'est toi qui es ma forteresse. » Et frères et sœurs, souvent, on vit des situations où on a l'impression que c'est des situations qui sont trop fortes pour nous. La pression est devenue trop forte pour nous. Le psalmiste ici dit, « Peu importe la pression, c'est toi qui es ma forteresse. » J'espère que Dieu est votre forteresse ce matin. Verset 12. « Et moi, je chanterai combien tu es puissant dès le matin. Hey. » La pression est forte, mais mon Dieu est encore plus puissant que la pression. Et c'est Dieu qui va faire baisser la pression. Dieu va provoquer des choses, la pression, elle va tomber. Ça peut être la pression de la situation que je supporte à cause de la situation, mais ça peut être aussi à cause du stress qui commence à oppresser mon cœur. Et là, si je viens devant le trône de la grâce de Dieu, c'est la première pression que Dieu va diminuer, c'est celle-ci. Décompresse, mon fils, décompresse. Fais-moi confiance. Et frères et sœurs, je vous parle ce matin, c'est facile de vous parler du haut de la chair, hein, le message est préparé, mais on vit dans un monde où il est de plus en plus difficile à marcher par la foi. Nos enfants sont malades. Souvent, avant de prier, on va les conduire à l'hôpital. Tu vois, c'est pas vrai. On a tellement tout à portée de la main. Il est tellement difficile aujourd'hui de marcher par la foi. Ça m'est déjà arrivé de vouloir prier pour des gens qui étaient malades. Ils m'ont dit, hey, non, 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 le temps que tu pries, t'as coup, il meurt. Il faut qu'il aille tout de suite à l'hôpital. On m'a déjà empêché de prier pour des malades parce qu'on m'a dit, non, non, le temps que tu pries, son état peut empirer. Ouais. Je suis pas en train de chasser les médecins du temple. Je suis simplement en train de dire qu'on vit dans un siècle où il est de plus en plus difficile de marcher par la foi. C'était peut-être, je ne sais pas si c'était plus facile pour David, probablement que les situations étaient encore plus difficiles que nous à l'époque. Il n'y avait pas toutes ces facilités. Mais il y a une chose de sûre, c'est que David n'avait pas d'autre moyen que de s'appuyer soit sur lui ou de s'appuyer sur le Seigneur. Il a pris la décision de s'appuyer sur le Seigneur. Et nous, en tant que croyants, malgré toutes les facilités qu'on a dans le monde, malgré toute la technologie qui nous entoure, on ne doit pas perdre de vue qu'en toute chose, on doit quand même marcher par la foi. Ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas consulter les médecins, ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas faire ci, qu'on ne doit pas faire ça. Mais d'abord, nous assurer que ce que nous vivons, nous l'avons remis entre les mains du Seigneur. Ça, c'est important. Verset 17. Et moi, je chanterai combien tu es puissant dès le matin. Je célébrerai combien tu es bon, car tu es pour moi une forteresse, un refuge quand je suis dans la détresse, quand je vis des moments angoissants. Verset, le psaume 63, rapidement. Psaume 63, un peu plus loin. Alors, le psaume 63 fait allusion au séjour de David dans le désert de Juda. Et nous constatons que David a vaincu son problème de solitude en cherchant le Seigneur. Versets 1 et 2. « Ô Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche, j'ai soif de toi. Tout mon être soupire après toi. » Ô Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche, j'ai soif de toi. Tout mon être soupire après toi. Et dans Matthieu chapitre 5, verset 6, Jésus dit, « Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. » Promesse du Seigneur. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, c'est-à-dire heureux ceux qui désirent marcher comme moi je le demande, comme moi je le désire, car ils seront comblés. Comblés.
David, il avait compris. Il a compris plusieurs siècles avant que Jésus prononce cette phrase de sa bouche. Versets 4 à 6. Ensuite, je te loue et je prie, car ta bonté vaut mieux que la vie. Car ta bonté vaut mieux que la vie. Car ta bonté vaut mieux que la vie. Mes lèvres célèbrent tes louanges. Verrai mes mains en ton nom. Célèbre tes louanges, j'élèverai mes mains en ton nom. Tam, 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 tam. On recommence. Hein? Versets 4 à 6, voilà où on a tiré notre chant. Versets 4 à 6. C'est ça que David chantait. Car ta bonté vaut mieux que la vie. Parce que ta bonté, elle dure éternellement et la vie a une fin. Ta bonté, Seigneur, elle ne s'épuise pas. Je vais mourir, je vais te rencontrer de l'autre côté et ta bonté n'aura pas changé envers moi. Car ta bonté vaut mieux que la vie. Puis il médite en pensant au Seigneur, versets 7 et 8. Lorsque je suis couché, je médite sur toi pendant les heures de la nuit. Car tu es venu à mon secours et je suis dans la joie à l'ombre de tes ailes. Tu es mon protecteur, Seigneur. J'ai vécu des choses aujourd'hui, Seigneur. Mais j'ai senti que tu étais présent, Seigneur. Tu m'as protégé. Comme une poule, Seigneur, lève ses ailes pour que ses poussins viennent se protéger sous ses ailes, Seigneur. J'ai ressenti la même chose avec toi aujourd'hui, dans les situations que j'étais appelé à vivre. Dans chacun de ces psaumes, David est en train de dire que dans les moments difficiles, il a mis sa confiance en Dieu et que nous devons faire de même. Il nous rappelle que nous devons rester attachés à lui en le louant et en le priant. Frères et sœurs, ce n'est pas évident de dire de louer le Seigneur dans les moments difficiles. Pas facile, hein? Hey, Seigneur, j'ai eu une augmentation de salaire. Ah, merci, Seigneur! Seigneur, j'ai eu une diminution de salaire. Merci, Seigneur! Hein? J'ai eu une diminution de salaire, Seigneur, merci! C'est vrai, non? Pourtant, la parole est claire, c'est pas moi qui vous le dis ce matin. Dans les bons comme dans les mauvais moments, il est bon de louer le Seigneur. Pourquoi? Parce que celui qui y fait confiance, il sait que c'est Dieu qui l'a permis. Ah, Seigneur, je ne comprends pas pourquoi tu as coupé une partie de mon salaire, mais toi, tu le sais. Peut-être que si j'avais continué à avoir un surplus d'argent, peut-être que si j'avais continué à gagner ce que je gagne, peut-être que j'aurais été capable de me passer de toi. Peut-être que tu aurais pu être le premier dans ma vie. Peut-être que j'aurais commencé à m'appuyer sur mes propres forces plutôt que sur les tiennes. Alors, Seigneur, je te loue. Tu me connais mieux que moi-même et je te fais confiance. Vrai ou pas vrai? Ah, ouais. On a tellement peur de perdre ce qu'on a gagné, quoi. Hein? Tellement peur. Le Seigneur, il sait ce qui est bon pour nous, il sait ce qui n'est pas bon pour nous. Psaume 63:9. Je suis attaché à toi de tout mon être, ta main droite me soutient. C'est comme cela que David reprit confiance dans le Seigneur, son Dieu, et qu'il fut capable non seulement d'affronter ses problèmes, mais de les vaincre avec l'aide que le Seigneur lui a apportée. Qu'en est-il de nous aujourd'hui dans les moments difficiles? Est-ce que nous suivons l'exemple de David? On va s'arrêter là ce matin. C'est une question à se poser ce matin. Qu'en est-il de nous aujourd'hui dans les moments difficiles? Est-ce que nous suivons l'exemple de David? Si vous continuez à lire après le chapitre 30, David va poursuivre ceux qui auront enlevé leurs biens, ceux qui auront enlevé, seront partis avec leurs femmes. Et parce qu'il faisait confiance au Seigneur, le Seigneur va lui donner la victoire. Et frères et sœurs, ce matin, peu importe ce qu'on vit, eh bien, on peut avoir l'assurance que si on lui fait confiance, Dieu prépare une victoire pour chacun de nous. Et cette victoire, elle n'est pas nécessairement matérielle. Cette victoire, elle n'est pas nécessairement visible. Mais cette victoire, elle peut être aussi d'ordre spirituel, frères et sœurs. Et c'est ça la plus grande richesse qu'on peut retirer du Seigneur. C'est la richesse spirituelle, quoi. Si à travers ce qu'on vit, parce qu'on fait confiance au Seigneur, ça nous fait progresser dans notre foi, bien, c'est une richesse incroyable qu'on est allé chercher, quoi. C'est un trésor incroyable que Dieu a déversé dans notre cœur. De nous amener jour après jour à travers les situations difficiles qu'on vit, à nous faire progresser dans notre foi. Et bien, frères et sœurs, tôt ou tard, on en viendra à avoir un cœur selon le cœur de Dieu. Dites amen à ça. Que Dieu vous bénisse.